d'autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Traversez les bornes de l'espace et du temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du fantastique. Littérature, cinéma, télévision, les médias sont nombreux, mais la vérité reste la même, ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Le fonctionnement est simple, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Lors des précédentes émissions, nous avons voyagé dans le temps et même lutté contre des zombies. Nous avons retenu les leçons apprises à travers les livres, films et séries et bien compris quoi mettre dans nos valises pour une petite traversée du temps ou quelle arme utiliser pour se débarrasser d'un mort-vivant. Bref, des leçons bien utiles pour affronter certains périls de ce monde fantastique. Mais les voyages spatio-temporels et les zombies ne sont rien face à la fin du monde. Notre thème ce mois-ci, ça n'est pas la fin du monde. Enfin, pas exactement. D'ailleurs, ce ne serait pas franchement approprié, non ? Évoquer la fin du monde en février, alors qu'elle était censée se produire en décembre, c'est ce qui s'appelle avoir un train de retard. Mais puisque la fin du monde était prévue, ne sommes-nous pas alors dans l'après, dans un monde post-apocalyptique ? Voilà notre thème. Car quoi qu'il arrive, et les versions sont nombreuses et varient en fonction des peurs de l'époque, de l'anéantissement nucléaire au temps de la guerre froide, au réchauffement climatique d'aujourd'hui, il y a toujours un après. Il y a toujours quelques survivants. Et c'est là que ça se gâte. Car l'apocalypse a beau avoir détruit la civilisation, il reste quelques hommes qui, généralement, au lieu de se féliciter réciproquement d'avoir survécu, vont avoir une légère tendance à se chercher les poux. Tout monde post-apocalyptique qui se respecte a ainsi son, voire ses, méchants, dictateurs en herbe, profiteurs du chaos, assassins sans scrupules. Il ne suffit donc pas d'avoir survécu à la fin du monde, reste à survivre au monde d'après la fin. Et pour commencer notre petit tour des mondes post-apocalyptiques, dans l'ordre chronologique, allons ouvrir un bon roman. Il s'agit du livre de René Barjavel, portant un titre très à propos, « Ravage ». Publié en 1943, ce roman est une des premières œuvres de science-fiction française. Outre le fait qu'il ouvre la voie à ce genre que j'affectionne tant, j'aime beaucoup ce livre à cause du parti pris de l'auteur, qui, dès la dédicace, à la mémoire de mes grands-pères paysans, marque le ton. Le nom même de son personnage principal, François Deschamps, est terriblement significatif. Toute l'histoire est en fait construite sur une critique du monde moderne, citadin et technologique, et invite à retrouver une simplicité rurale, synonyme de survie et de bonheur. L'action se déroule en 2052, dans un monde qui ressemble en fait un peu au nôtre. Toute la population est concentrée dans les grandes agglomérations, reliées entre elles par des transports rapides, à tel point que les villes finissent par se rejoindre et ne former qu'une seule agglomération en forme de dentelle, un immense réseau d'usines, d'entrepôts, de cités ouvrières, de maisons bourgeoises, d'immeubles champignons. Les campagnes se rétrécissent, la nourriture, à l'exception du vin et des fruits, étant produite en usine. Mis à part quelques paysans irréductibles, la grande majorité des Français est donc urbaine. Et dans tous les appartements des grands immeubles que Barjavel qualifie de champignons, l'on dispose d'une télévision en relief et couleur naturelle qui propose de nombreux divertissements. La technologie décrite, qu'elle soit celle des transports ou des communications, est parfois en avance sur la nôtre, mais souvent, en fait, assez ressemblante. Et dans nos grandes villes, devant nos télévisions 3D, Barjavel nous plaint. Car ce monde va au-devant de sa perte. La catastrophe est proche, et avec elle, son lot de ravages. Une gigantesque explosion va en effet détruire Paris. Et l'incendie qui en résulte va s'étendre à toute l'agglomération et aux villes auxquelles elle est reliée, partout en Europe. Plus aucun secours à attendre de la technologie dont les hommes sont devenus si dépendants. Le salut sera dans la campagne, épargné par la catastrophe. C'est là que François, Blanche et leurs amis trouveront refuge. Au fil de la lecture, on en viendra à se demander si les ravages ne sont pas plutôt ceux de ce monde moderne, citadin, artificiel et technologique. L'explosion et l'incendie généralisé ont certes causé beaucoup de dégâts, tant matériels qu'humains. Mais au final, l'apocalypse n'est-elle pas libératrice? Malgré les souffrances qu'elle engendre, elle porte en effet le germe d'un monde nouveau dans lequel l'homme retrouve, dans un retour à la terre salvateur, simplicité et bonheur. Ce premier de nos mondes post-apocalyptiques n'est donc pas l'enfer auquel on pouvait s'attendre, mais bien plutôt un nouvel âge d'or campagnard.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Elle est manne, faut faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer
cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le couler de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos...
On continue dans les mondes post-apocalyptiques version rurale avec le roman publié en 1972 de Robert Merle, Malleville. Ce drôle de nom est en fait celui d'un lieu, un roc, sur lequel un château a été bâti, le château de Malleville, situé dans le Périgord. Ancien instituteur, Emmanuel, le personnage principal, a racheté et rénové le château en question grâce à l'héritage de son oncle. Il y élève des chevaux, y fait son vin. Bref, il mène une petite vie bien tranquille, à peine perturbée par la campagne électorale des municipales de Mallejacques, le village voisin. Nous sommes à Pâques 1977. Emmanuel et quelques amis d'enfance sont descendus dans la cave du château où l'on met le vin en bouteille, continuant leur discussion enflammée sur les fameuses élections. C'est ce jour-là que survient la guerre atomique, détruisant en un instant le monde tout entier. Le feu nucléaire se répand sur la terre et brûle tout sur son passage. Malleville lui-même, au fin fond du Périgord, est touché. Mais tandis que la terre et les arbres, les villages alentours se consument, le roc de Malleville résiste, et protège le petit groupe d'amis. Survivant dans un monde dévasté, nos héros ont un sacré avantage, Malleville. Le roc et le château qui leur ont sauvé la vie vont continuer à les protéger. Ils vont d'abord les nourrir, car les animaux abrités sous les lourdes voûtes de pierre ont également survécu. La terre a elle aussi été épargnée en certains endroits, protégée par la montagne, et les réserves de grains permettront de semer. Mais le château et ses fortifications seront également très utiles lorsqu'Emmanuel et ses amis se rendront compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir survécu. Et ces autres survivants ne seront pas toujours animés de bonnes intentions. À Malleville, la résistance s'organise alors et la petite communauté, qui s'agrandira au fil des rencontres et des retrouvailles, se construira comme une nouvelle société décidée à perpétuer l'humanité. Autre époque, autre peur, autre vision d'un monde post-apocalyptique. En 1979, la guerre froide est presque finie et l'on n'a plus peur de la destruction atomique. En revanche, les deux crises économiques successives de 1973 et de 1979, qui ont vu le cours du pétrole s'affoler, ont fait prendre conscience aux populations de leur extrême dépendance à l'égard du précieux liquide. On commence alors à se demander à quoi ressemblerait un monde dans lequel le pétrole viendrait à manquer. Ce monde, imaginé par le réalisateur australien George Miller, c'est celui de Mad Max. Joué par Mel Gibson, le personnage principal, Max, est un policier. Au volant de sa Ford Falcon, il intercepte les dangereux bandits qui sèment la terreur sur les routes.
Hey Max !
Hey Max !
Go ahead.
We are 100% snafu.
You okay?
Not for the year and the tropics wouldn't fix.
Much damage.
You should see the damage, Bronze,
huh? Metal damage.
Brain damage, huh?
Are you listening, Bronze?
I am the Knight Rider. I'm a fuel-injected suicide machine.
D'une intervention, l'un de ces hors-la-loi trouvera la mort et les membres de son gang le vengeront en tuant la femme et le fils de Max. Dès lors, fou de douleur, Max prendra lui aussi la route de la vengeance. Cela donne une ambiance western à ce film très violent qui nous présente une version bien moins bucolique d'un monde post-apocalyptique où l'homme est redevenu un loup pour l'homme.
And I wonder when we are ever done.
Soyons honnêtes. Dans un monde post-apocalyptique où le pétrole viendrait à manquer, voire à disparaître, la Ford Falcon de Mad Max ne serait-elle pas transformée en poulailler depuis longtemps? Ne serait-il pas plus logique de se déplacer à cheval, par exemple? Ou bien en train, pourquoi pas? En 1980, c'est ce qu'imagine G.J. Arnaud dans son roman La Compagnie des Glaces. Les trilogies en tout genre peuvent aller se rhabiller face à ce feuilleton romanesque en 98 volumes. C'est tout simplement un record pour une œuvre littéraire écrite par un même auteur. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, un brin frisqué. En effet, à la suite de l'explosion de la Lune, l'atmosphère terrestre s'emplit de poussière qui bloque le passage aux rayons du Soleil. Cela provoque une ère glaciaire qui oblige les humains à abriter leur ville sous des dômes afin de survivre. Ces globes protègent les agglomérations et offrent à leurs habitants des températures acceptables. Au dehors, c'est une autre histoire. Et il faut pour sortir prendre à peu près les mêmes précautions et le même équipement que pour aller faire un petit tour dans l'espace. À part pour les roues, une espèce génétiquement modifiée pour survivre aux conditions climatiques extrêmes de ce monde. Les hommes peuvent donc vivre sous les dômes, mais ne peuvent les quitter. Le seul moyen de transport reste le train. De grandes compagnies ferroviaires permettent en effet de relier les dômes entre eux par le rail. Et l'on est très loin de la SNCF. Ces compagnies règnent en maître sur le réseau et imposent leur politique aux allures de totalitarisme. Lien Hag, le personnage principal de l'œuvre, un glaciologue, apprendra d'ailleurs à ses dépens ce qu'il en coûte de défier les compagnies. C'est une œuvre très intéressante qui a le mérite d'ajouter un questionnement politique et économique au plaisir de la fiction. Et l'on comprend bien que l'apocalypse n'est pas du tout la fin du monde, mais bien plutôt le début d'un autre, et que cela arrange les affaires de certains qui abusent de leur situation de monopole. Exit donc la solidarité post-apocalyptique du monde bucolique de Barjavel, l'univers que nous décrit G.J. Arnaud est bien plus dur et bien plus froid. Terriens, terriennes, vous êtes sur Radio Centrafrique pendant l'heure fantastique, au programme de notre émission Les mondes post-apocalyptiques. Pop, petit saut temporel et l'on se retrouve en 1987, une très bonne année, qui vit sortir le premier album de la série Ombre. Cette bande dessinée, créée par Ortiz et Segura, raconte les aventures d'un homme, Ombre, dans un monde post-apocalyptique, effrayant de réalisme. La première page présente trois images de la même ville. Dans la première, on peut voir la lumière aux fenêtres des grandes tours et la circulation, dense, sur le pont au premier plan. On imagine presque le bruit des moteurs et des klaxons. Sur la seconde, la ville est plongée dans l'obscurité et rares sont encore les voitures à circuler. Sur la troisième, la ville est en ruine. Le texte au-dessous raconte les évolutions progressives qui ont, petit à petit, plongé le monde dans le chaos et l'anarchie. Il n'est pas question en effet de catastrophes soudaines, pas d'explosion atomique ou de brusque montée des eaux. Il s'agit de guerres au Moyen-Orient, d'émeutes en Amérique du Sud, de grèves en Europe, de crises économiques et de restrictions budgétaires qui nécessitent que chacun fasse sa part de sacrifice. Au départ, on parle de rationnement, de l'essence, de l'électricité, puis de coupures, provisoires, croit-on. Mais le provisoire dure. Ombre a connu le monde d'avant, celui dans lequel il était si facile d'appuyer sur le bouton pour appeler un ascenseur, de mettre sa carte de crédit dans un distributeur, de faire le plein d'essence au supermarché. Mais ce monde-là a cessé progressivement d'exister. Sous les images de la ville qui tombe peu à peu en ruine, Ombre s'adresse à la jeune génération, née après les changements. Nous étions condamnés à succomber avec la civilisation que nous avions créée et la ville devait être notre tombeau. 20 années ont passé depuis lors. Vous persistez à vous nommer hommes et femmes, mais vous n'arriverez pas à me tromper. Vous appartenez à une nouvelle race qui se nourrit des reliefs de ma ville. Vous êtes nos créatures, cruelles, immorales, sans foi ni loi. Vous êtes les survivants et vous hériterez de la terre. Ces paroles, sombres, sont le reflet du désespoir résigné de Ombre. Il tente de survivre, n'hésitant pas à approfondir parfois, lui aussi, sa part d'immoralité, dans un monde individualiste. Ce qu'il y a à la fois de fascinant et d'effrayant dans cette œuvre, c'est son réalisme, sa ressemblance avec notre monde actuel, pas si loin, finalement, du chaos. En 1995, notre prochain film post-apocalyptique est révélateur de nouvelles inquiétudes. La guerre froide est loin derrière et la génération pour qui le pétrole était un produit bon marché entre en maison de retraite. Dans les années 90 puis 2000, ce qui inquiète réellement, ce sont les bouleversements climatiques. On commence à parler de l'effet de serre, du réchauffement de la planète et de la montée des eaux. S'inspirant de ces peurs nouvelles, beaucoup de films ont centré leur scénario sur l'apocalypse, version climatique. La plupart se sont concentrés sur la catastrophe elle-même, comme « Le jour d'après » par exemple. Certains ont mêlé l'inquiétude écologique aux anciennes peurs millénaristes et apocalyptiques, comme le très célèbre 2012. D'autres, enfin, ont préféré à l'apocalypse elle-même le monde post-apocalyptique. Et ça tombe bien, puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Waterworld, réalisé par Kevin Reynolds, nous présente le monde de 2500. Le réchauffement climatique a fait fondre les glaces et le monde est entièrement recouvert par les eaux. Les hommes vivent donc sur des atolls artificiels et fuient la misère de leur existence en rêvant à Dryland, une île mythique, seule terre encore émergée selon la légende. Le héros, joué par Kevin Costner, est un homme solitaire aux pieds palmés qui vit sur son bateau, cherchant plus que tout à éviter les ennuis. Et si dans Mad Max, les méchants étaient des bandits de la route, dans un monde sans terre, les vilains seront des...
pirates !
Ceux-ci rançonnent, volent, enlèvent et tuent aussi bien les navigateurs solitaires que les habitants des atolls artificiels. Le héros, qui s'est retrouvé en mauvaise posture après une petite escale dans un de ces atolls, est emprisonné lorsque les pirates attaquent. Il est alors délivré par une jeune femme qui lui demande un petit service en échange. Il s'agit de la protéger, elle et une petite fille nommée Enola, et de les emmener à Dryland. La fillette est en effet un peu spéciale. Sur son dos se trouve tatouée une carte indiquant la position de l'île, qui semble être un peu plus qu'un mythe. Mais le voyage ne sera pas de tout repos, puisqu'il faudra compter avec les pirates qui se verraient bien établir leur QG à Dryland. Notre homme poisson des océans en viendra alors à abandonner son ancienne solitude et son individualisme pour revêtir toute la bravoure et le courage nécessaires à cette périlleuse aventure.
«
achever notre petite liste, non exhaustive bien entendu, des mondes post-apocalyptiques, inaugurons une nouvelle rubrique de cette émission, le film de Pucelle. Mais si, vous savez exactement de quoi je parle. Ces films gnangnan, bourrés de bonnes intentions, de romantisme à deux balles, et qui finissent toujours bien. Le plus souvent américain, leur héros, qui n'hésite pas à se sacrifier si besoin est, a une sévère tendance à prononcer de jolis discours moralisateurs, de préférence patriotiques, sur fond de musique dramatique. Et même s'ils ne méritent pas un Oscar, ces films, on les aime bien. Allez, ne dites pas le contraire. Qui n'a pas adoré serrer le plaid sur ses genoux ou le pot à pop-corn entre ses petites mains tremblantes et retenir une larme pendant la toute dernière scène, lorsque la musique envoie les violons et que le héros, blessé, se relève, son regard croisant celui de l'héroïne, les cheveux au vent et le décolleté généreux. Même vous les garçons, malgré vos protestations, je suis certaine que vous aimez ça. Soyons honnêtes, il faut l'avouer, nous avons tous ce petit côté jouvencel en nous. Alors le temps de cette rubrique, assumons. Et ce mois-ci, dans notre émission sur le thème des mondes post-apocalyptiques, notre film de Pucelle, c'est Postman. Ce film, sorti en 1997, a été réalisé et joué par Kevin Costner. L'histoire, c'est amusant, se déroule en 2013. Suite à la Troisième Guerre mondiale et à l'hiver nucléaire qui l'a suivi, la civilisation a été détruite et le monde a sombré dans l'anarchie et le chaos. Les rares survivants s'organisent comme ils peuvent sur les ruines de notre société. Dans ce désordre, un homme qui prend le nom de général Bethléem monte une armée et impose sa loi dure et cruelle aux communautés de survivants. Le personnage principal, joué donc par Kevin Costner, est un acteur itinérant qui joue des pièces de Shakespeare dans les villages en échange d'un peu de nourriture. Il va être recruté de force dans l'armée du général Bethléem et s'en échappera. Dans sa fuite, il trouve refuge dans une vieille camionnette de facteur. Le squelette au volant porte encore la casquette et la veste de son uniforme, et surtout, la musette, qui contient toujours des lettres. Le héros va revêtir l'uniforme, s'emparer de la musette, et s'invente un personnage de facteur au service du gouvernement restauré d'Amérique, qu'il crée de toutes pièces également. Mais ce gros mensonge va fonctionner, et il va être accueilli en héros par les villageois, qui retrouvent espoir grâce à lui. Tout cela va même le dépasser. Beaucoup de jeunes gens s'engagent dans les services postaux qu'il a imaginés, et il se retrouve à la tête d'une poste effective, qui va rétablir le service du courrier dans toute la région. Cela, évidemment, n'est pas vraiment du goût du général Bethléem, qui va décimer les rangs des postiers. Pour mettre fin à cette violence, le facteur va donc provoquer en duel le général. Le tout sur fond de musique dramatique, avec de grands élans patriotiques, et le gentil qui gagne à la fin. Vous me voyez venir ? Écoutez d'abord.
Je connais mes semblables. Je sais quel est ton problème. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne sais pas te battre ? Parce que tu n'as pas de cause à défendre. Tu ne t'intéresses pas à grand-chose. Tu ne crois en rien. En rien. Tu n'as pas le sens des valeurs. Et c'est ça qui fait que je suis plus fort que toi. Tu apprendras pourtant que je crois aux États-Unis.
On comprend mieux pourquoi ce film a récolté 5 Razzie Awards, la récompense réservée au pire film de l'année. Les médias ont parlé de sentimentalisme contrefait, d'un film bienveillant, absurde et prétentieux, mal joué, sur un mauvais scénario et de la mauvaise musique. Ok, ok. Mais il n'empêche que j'avoue sans honte avoir le DVD à la maison. Il est parfait pour un dimanche après-midi de pluie, avec un gros mug rempli de chocolat chaud entre les mains, un petit saladier de pop-corn et un bon feu dans la cheminée. Personne n'a envie de réfléchir ou de voir le gentil mourir à la fin. pas les dimanches après-midi pluvieux en tout cas. Après ce petit tour des mondes post-apocalyptiques, reste une dernière rubrique pour clore notre émission, celle des conseils pratiques. Quelle attitude adopter en cas de fin du monde ? Comment survivre à la catastrophe, mais surtout au monde d'après la catastrophe ? Vous avez de la chance. Les Mayas et le scénariste de 2012 s'étaient trompés. Nous avons donc droit à un petit délai avant l'apocalypse. Histoire d'être prêt la prochaine fois qu'on nous fera le coup, quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Attention, armoire d'urgence, vitre à briser uniquement en cas de fin du monde. Avant le 21 décembre dernier, quelques personnes un peu naïves mais très prévoyantes avaient fait quelques réserves, jusqu'au cas où. Mais en imaginant que la catastrophe ait réellement eu lieu et que les personnes en question aient survécu, à quoi auraient pu leur servir 8 kilos de sucre et des fruits en conserve ? Dans le monde post-apocalyptique, on se moque bien de faire des confitures. À travers les différents mondes que nous venons d'explorer dans cette émission, nous avons appris une chose : la vie y est dure et pour survivre, il va falloir se battre.
I'm the dog with the bullet shriver to the sound.
premières leçons, emménager à la campagne. La vie en ville, tous les auteurs s'accordent là-dessus, n'est déjà pas top avant la catastrophe, mais deviendra carrément infernale après. Et puis, si la fin du monde n'a pas lieu, au moins aurez-vous la satisfaction d'être calme et d'avoir un loyer moins cher. Deuxième conseil, une fois à la campagne, mettez-vous au potager. Pour les conseils sur les semis de courges et le repiquage des tomates, foncez sur la page du Capitaine Potager et réécoutez ses émissions. Il faut être réaliste. Après l'apocalypse, il vous sera difficile d'aller chercher votre pain à la boulangerie et vos légumes au marché. La survie dans ce monde post-apocalyptique passera donc d'abord par la bouffe. Et si vous pouvez compter un temps sur vos placards, il faudra bien un moment produire votre nourriture vous-même. Oubliez donc les 8 kilos de sucre et les fruits en conserve. Si vous voulez faire des réserves, gardez des graines. Et puis au moins, si la fin du monde n'a pas lieu, vous pourrez toujours vous éclater en faisant votre potager, faire des économies et manger vos 5 fruits et légumes par jour. Troisième et dernier conseil, mettez-vous au sport. On se bouge, on marche et on court. Si l'on doit se passer du pétrole un jour, du jour au lendemain, vous devrez bien vous y mettre de toute façon. Alors autant commencer tout de suite. Apprenez aussi à nager au cas où, si la mer monte, ça peut toujours servir. Et puis, si la fin du monde n'a pas lieu, au moins, vous aurez la forme. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivie. On se retrouve au mois d'avril pour une heure fantastique sur les invasions aliens. Alors d'ici là, ouvrez l'œil, car vous le savez bien, ils sont parmi nous.